Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Couleur FM spéciale élections législatives des 11 et 18 juin 2017. Nous continuons à rencontrer tous les candidats des 6e et 10e circonscriptions de l'Isère. Et aujourd'hui, nous sommes avec Marjolaine Meynier-Millefer et M. Xavier Francisco qui sont candidats pour En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir. Je vais commencer par la même question que pour tous les autres candidats. Ça va être très simple. Je vais vous demander à tous les deux de vous présenter, de faire un tout petit portrait. Qui êtes-vous ?
Alors, moi, j'ai 34 ans. J'ai grandi et j'habite toujours à Montagneux, donc une petite commune au-dessus de la Tour du Pin. J'ai été enseignante. Je me suis reconvertie il y a quelques années et j'ai repris mes études en communication et je suis maintenant chef d'entreprise à mon compte. Voilà pour le parcours professionnel. Je suis mariée à un chef d'entreprise et j'ai également deux enfants qui ont 7 et 4 ans.
Alors moi, je m'appelle donc Xavier Francisco. Je suis médecin généraliste. Je suis installé à Nivoy-Vermel, donc pas très loin d'ici, depuis 21 ans. J'ai une expérience de médecin aussi urgentiste, puisqu'avant de m'installer, je faisais du SMUR. Et je suis marié, j'ai 56 ans, j'ai deux enfants qui font... Enfin, il y en a un qui a une petite entreprise et puis ma fille qui fait des études de lettres. Et politiquement, moi, je suis un petit peu plus engagé, puisque je suis adhérent au MoDem depuis la création de ce parti. Et donc, je suis là avec En Marche dans le cadre... l'association qui a été créée avec Emmanuel Macron et François Bayrou.
Et vous, Marjolaine Meynier, vous avez un engagement politique antérieur ?
Oui, alors effectivement, j'ai été élue conseillère régionale sur la liste de Jean-Jacques Kerran, donc en 2015, et c'était mon premier engagement politique, à proprement parler, dans le sens où, avant ça, j'étais assez active dans les associations, et on peut dire que c'est de l'engagement politique également, mais apartisan. Donc, j'étais effectivement active sur le territoire et on m'a proposé de rejoindre cette liste pour apporter la vision d'une société civile ouverte sur le centre. Hein. C'était déjà un petit peu la logique du départ. Et donc, voilà comment l'engagement politique a démarré. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on voit comment ça se passe, je peux vous garantir qu'on n'a qu'une envie, c'est de s'investir encore un petit peu plus pour changer les choses.
Donc vous êtes un binôme extrêmement représentatif de En Marche, finalement. Vous, monsieur, issu du centre droit, du MoDem, vous plutôt du centre gauche, puisque vous étiez avec monsieur Kerran auparavant, c'est vraiment représentatif de ce que veut Emmanuel Macron de ce mouvement, non ?
Tout à fait. Et en même temps, nous, on se positionne... c'est vrai que c'est l'étiquette qu'on nous donne un petit peu, centre-gauche, centre-droit. Mais nous, c'est vrai qu'on ne se positionne pas en question de droite-gauche. On se positionne vraiment dans la logique des progressistes, en se disant qu'il faut sortir de ces micro-cases. Même le MoDem, il y a le MoDem gauche, le MoDem droite. Ça va un petit peu loin dans les découpages entre gris clair, gris foncé, gris médian... Il faut essayer d'arriver à dépasser un petit peu tout ça. Et je pense que c'est justement le pari d'En Marche, c'est d'arriver à rassembler des gens qui sont de plein de courants politiques différents à l'origine. Donc quand on se retourne sur leur parcours, ils viennent de différents parcours. La plupart d'ailleurs sans parcours politique du tout, hein, plutôt les gens de la fameuse société civile, des gens qui s'engagent pour la première fois autour d'un mouvement politique. Et en fait, on voit bien autour de nous qu'on fédère des gens de l'UDI, du PS, du MoDem, même des Républicains. Donc c'est vraiment très, très ouvert. Et notre objectif, ce serait fondamentalement d'arriver à réunir tous les progressistes.
En fait, moi, j'ai l'impression que j'ai depuis plusieurs années, et je pense quand on discute avec nos concitoyens, ils nous disent tous la même chose. Cette guerre éternelle entre la droite et la gauche, qui peut être rassurante pour certains, mais on n'arrive pas à vraiment à avancer. On a l'impression, l'image que je prends souvent, c'est comme un corps humain où on lui enlèverait un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche, c'est certain qu'il va avancer moins vite. C'est une image. Hein.
Et vous êtes médecin, vous savez de quoi vous parlez.
Voilà, exactement. Et c'est terrible parce qu'il y a des personnes très bien et qui ont de bonnes volontés admirables à droite, il y en a de très bien de bonnes volontés à gauche, et on se dit, mais alors sous prétexte que tu es soit de droite, soit de gauche, tu n'as pas le droit de travailler ensemble. Et si on pouvait, et parce qu'il faut le faire, parce que là, moi personnellement, je suis très inquiet de la montée des extrémismes, Il faut absolument aider Emmanuel Macron à faire que notre pays aille mieux, qu'on ait moins de chômage. Donc c'est vraiment l'objectif. Et on en a beaucoup parlé avec Marjolaine, et de ce point de vue, on est entièrement en phase.
C'est vrai qu'on a pu observer que chacun de dans nos parcours politiques, le mien un peu plus récent que le tien, mais effectivement, on a pu observer que des gens qui, en fait, en off, vont avoir exactement les mêmes idées, les mêmes discours et défendre les mêmes choses. Dès qu'ils sont dans le on et dans les spotlights et où on est là, ils sont pris dans le carcan politique et ils sont forcément contre ce qui est proposé, alors qu'en off, ils nous disaient, en fait, ils ont plutôt raison, quoi.
Alors justement, cette recomposition, c'est la question que je pose aussi traditionnellement à tous les candidats. Alors tous les autres, je leur demande que va devenir leur parti. À vous, je vais demander, mais voilà, qu'est-ce que c'est votre vision de cette recomposition? Et puis finalement, qu'est-ce que vous cherchez à travers ça? Est-ce que cette idée de réunir tous les progressistes, comme vous dites, c'est l'idée de faire un seul et grand parti unique dans lequel il n'y aurait pas d'alternance?
Alors déjà, au départ, En Marche, ce n'est pas un parti unique. C'est déjà des courants de pensée différents qui s'expriment. Et ça, c'est vraiment une volonté qu'on veut conserver. Enfin, moi, je serais la première déçue si demain, En Marche, ça devenait un lieu fermé dans lequel on est absolument... contraint dans notre discours. Je pense que c'est justement ce qui est riche dans cette diversité-là, c'est de pouvoir avoir des débats qui sont constructifs, où les gens ne portent pas au départ forcément les mêmes valeurs, ou n'ont pas forcément exactement les mêmes motivations ou les mêmes parcours, mais ça vient s'enrichir, et du coup c'est là où on peut arriver tous ensemble à faire baisser un petit peu la part d'erreur qu'on a tous en nous, en fait. C'est ça, il me semble, vraiment le but de la démocratie. C'est pas travailler ensemble pour dire voilà, j'en ai le plus avec moi, donc c'est moi qui ai raison. C'est, en fait, on demande aux gens de se rassembler pour justement que tous ces cerveaux collectifs là, ils se mettent ensemble, et puis qu'on arrive à faire diminuer cette part de l'individu qui peut se tromper, parce qu'il n'a pas toutes les cartes en main, forcément.
Mais du coup, vous parliez de votre peur des extrêmes, à droite comme à gauche, si j'ai bien compris, mais on assiste finalement à une sorte de recentrage des extrêmes actuellement, avec une Marine Le Pen qui édulcore largement le message du Front National, un Jean-Luc Mélenchon qu'on dit à l'extrême gauche, mais qui représente finalement des idées de gauche du PS d'il y a quelques années, plus ou moins. Est-ce que justement un centre fort ne va pas renforcer peut-être pas des extrêmes, mais en tout cas des positions beaucoup plus dures à droite comme à gauche?
Non, moi je pense pas du tout. Je pense qu'effectivement on a une recomposition qui est en train de se produire. On a effectivement un rapprochement d'une frange droite extrême et d'une extrême droite qui vont effectivement vers un rapprochement à un certain niveau. On a par exemple au niveau du FN une nouvelle fracture qui se fait, parce que du coup ce recentrage, enfin, il ne faut peut-être pas exagérer non plus quand on parle de recentrage du FN, mais ce relooking du FN ne plaît pas à une autre partie du FN. Donc là, il y a une nouvelle fracture. On se rend compte que Mme Le Pen, elle est elle-même critiquée comme étant trop soft. Enfin, il y a ça aussi. Et effectivement, sur le côté de la gauche et de l'extrême gauche, enfin, M. Mélenchon, il a réussi un pari assez impressionnant. C'était d'arriver à réunir des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes aspirations, en fait, au sein de ce discours-là. Mais il y avait le cœur d'extrême gauche, si vous voulez. Et là, pour le coup, l'extrême gauche, c'est finalement assez fermé aussi, hein, assez populiste aussi. Mais il a réussi à toucher une part des gens, et ça, c'est cette ouverture qu'il a su faire, une part des jeunes qui avaient envie vraiment de concevoir un monde différent. Et ça, c'est vraiment très concrètement, c'est quelque chose que je peux comprendre. Enfin, c'est vrai qu'il a apporté par moments des souffles intéressants, même pendant le débat présidentiel. Moi, j'ai ma petite sœur, elle était séduite par ce discours. Parce qu'effectivement, il disait, mais où est l'humain dans tout ça? Et c'est vrai qu'à côté de ça, il faut arriver à sortir de ce discours un peu populiste qui est de dire, justement, d'être que passé par l'émotion, et le discours rationnel qui est de dire, on aimerait bien, évidemment, tout donner à tout le monde, tout faire pour que ça aille tout mieux tout de suite. Mais concrètement, d'un point de vue rationnel et raisonnable, on a besoin d'être dans une avancée beaucoup plus modérée. Et en fait, c'est ça qui est beaucoup plus constructif, en fait. Quand on fait des promesses qu'on peut tenir, finalement, je pense que c'est ça qui fait qu'on va avancer. C'est faire des promesses qu'on ne tient pas. Je pense que ça ne fera qu'augmenter, en fait, la grogne des gens, et puis à raison, et la défiance envers les politiques. Donc moi, je pense que, justement, aujourd'hui, il y a cet enjeu très important qui est de réussir le pari que lance Emmanuel Macron, qui est de réellement réformer fermement, mais avec bienveillance, le pays, et de faire notre transition française, pour qu'on puisse être effectivement à nouveau un pays compétitif. Le fait qu'aujourd'hui on entend des parents qui disent à leurs enfants « Je suis désolé mon fils, mais si tu veux réussir, il faudra que tu ailles ailleurs qu'en France, parce qu'en France on ne peut plus réussir », moi c'est un discours que je trouve atterrant.
On ne peut plus réussir comment ?
Bah, c'est un petit peu le discours qu'on entend, vous avez dû l'entendre comme moi, sur le fait qu'effectivement, à l'étranger, on peut réussir mieux, que ce soit dans l'entreprise, dans la recherche, au niveau même de ses études, qu'en gros, si on veut réussir et vraiment avancer, il faut partir. Qu'en fait, les blocages et en France sont trop importants. C'est le sentiment qu'ont aujourd'hui un certain nombre de parents.
Il y a un pessimisme en France, et moi, je le vois au cabinet, qui me désespère, c'est-à-dire quand on entend par... et quelle que soit leur origine politique d'ailleurs, et là-dessus, on a une obligation presque de résultat. Si on arrivait avec Emmanuel Macron à redonner un peu d'optimisme à ce pays, on aura fait un grand pas en avant, parce que tout est pas foutu. On a des qualités, on a des valeurs, et c'est pour ça que on cherche à essayer de faire travailler le plus de monde possible. Toute autre personne qui veut bien, qui accepte, quelle que soit son identité, on ne lui demande pas de perdre son identité. Moi, je suis au Modem, on m'a pas dit les critiques de Modem, tu dégages. Donc, et ça, c'est important. Et quand j'ai des collègues républicains, UDI, avec qui je peux parler et où on se retrouve avec des... On veut améliorer l'état général de notre pays. On voudrait que les Français soient moins tristes, moins inquiets sur l'avenir. Alors c'est vrai, je peux comprendre certaines inquiétudes. On a parlé avec l'extrême gauche. Chez l'extrême droite, hier, j'ai eu encore une discussion avec une de mes patientes qui me sortait de ce qu'on appelle les fake news, mais qui était persuadée qu'elles étaient réelles. Et c'était des choses...
C'est ça, le premier travail, c'est finalement de travailler sur l'espoir, sur l'optimisme. Quand vous dites des parents qui disent ça, en fait, c'est peut-être pas forcément vrai, mais en tout cas, on a le sentiment qu'en France, on ne réussit pas, tout comme on a le sentiment qu'on doit avoir peur.
Tout à fait. C'est ça le problème, c'est que factuellement, en fait, on a plutôt un pays qui réussit. Et on a plutôt un pays qui permet de faire des choses extraordinaires. Regardez, Emmanuel Macron, on lui a dit que ce sera jamais possible de mener une campagne présidentielle en un an et de la réussir. Et il a réussi. Il y a les possibilités aujourd'hui en France d'avoir des parcours de météorites, vous voyez, de choses vraiment dans le succès. C'est tout à fait possible.
Là, ça a demandé quand même une somme d'éléments, de contexte qui ont permis la chose.
Mais tout à fait. Mais les énergies positives, elles existent. Et je pense d'ailleurs que Couleur FM, c'est exactement la même dynamique que vous avez.
Une énergie positive 24 heures sur 24 sur le 97.
Mais c'est ce qui me plaît dans votre radio, c'est qu'effectivement, vous êtes tout à fait dans la logique d'aller chercher les gens qui sont dans ces énergies positives, d'arriver à montrer les énergies positives du territoire. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment. Moi, j'avais justement un ami qui me disait, tu sais, la première grande réforme qu'il faudrait faire, ce serait d'obliger les médias à avoir quelques bonnes nouvelles de temps en temps. Et c'est vrai que ça, cette mesure de montrer aussi ce qui va bien...
Il y a tout un pan du journalisme qui s'est développé, qu'on appelle le journalisme de solution par rapport à ça, pour donner des solutions à ce niveau-là. Mais c'est pas le sujet, et on va manger sur vos 20 minutes si on parle des médias. Mais justement, tout à l'heure, vous parliez des promesses qu'il était important de tenir, et notamment pour Emmanuel Macron. Vous vous engagez dans ces législatives, justement, en espérant être élu, et en espérant pouvoir l'aider à tenir ses promesses. Quelles sont les promesses d'Emmanuel Macron qui vous tiendraient le plus à cœur ?
Alors, moi, il y en a deux qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est que l'école redevienne un levier de réussite, réellement. Aujourd'hui, on a une nostalgie d'une école qui permet aux enfants de réussir. Et je pense que cette nostalgie, elle n'est pas pour l'école comme elle fonctionnait avant dans les années 50, mais elle est pour ce que l'école promettait et permettait de faire et de réaliser. Aujourd'hui, on a l'idée qu'on a une école qui réduit les inégalités. C'est pas vrai. On a une école qui reste encore fortement inégalitaire. Les jeunes qui rentrent à l'école avec des difficultés restent à l'école avec des difficultés. Les jeunes qui réussissent s'en tirent pour le coup mieux. Et c'est vrai qu'on produit encore de très grandes élites. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est justement tous ces enfants qu'on laisse sur le carreau. Et je pense que ça, c'est la première grande promesse que doit rétablir la République, c'est de faire que l'école puisse être à nouveau un levier pour tous les enfants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me paraît extrêmement intéressante, c'est au niveau de la logique du travail, c'est d'arriver à une certaine flexibilité, parce qu'on est dans un monde qui nous demande d'être agile, qui bouge très vite. Donc il faut une certaine flexibilité, parce que si on le rigidifie, on casse les gens très concrètement. Donc on a besoin d'une certaine flexibilité, mais en même temps, on a besoin de sécurité. On ne peut pas être bien dans son travail si on a peur tout le temps. Donc il faut arriver à trouver les moyens de rendre de la souplesse au modèle économique et aux entreprises, etc., mais tout en protégeant les gens. Moi, ce que j'aime bien dans la formule d'Emmanuel Macron, c'est de dire on n'est pas là pour protéger les emplois, on est là pour protéger les gens qui travaillent. Un emploi, ça se change.
Donc là, c'est clairement déterminé par les modèles sociaux, libéraux, sociaux-démocrates scandinaves qui ont déjà été expérimentés là-bas.
Ben, je pense que c'est surtout à réinventer dans chaque pays à son niveau, parce que les choses qui marchent d'un côté, on peut les dupliquer dans une certaine mesure, mais on a besoin de trouver aussi nos propres solutions, notre propre ajustement entre flexibilité et sécurité. En fait, il y a cette liberté, elle est nécessaire. En face de la liberté, c'est des continuums en fait, hein, entre liberté et sécurité. On n'est jamais aussi en sécurité que dans une pièce de 2 mètres sur 2 enfermée où il n'y a rien qui se passe et rien qui se bouge. Là, on est très en sécurité, mais aussi, on est aussi très enfermé. Dans la pure liberté où on est, par exemple, en chute libre, ben là, vous êtes en pleine liberté de vos mouvements, il n'y a pas de problème. Par contre, vous n'êtes absolument pas en sécurité. Donc la question, c'est de savoir comment on met le curseur. Et le curseur, il ne va pas être le même pour toutes les personnes. Et les gens qui vont avoir besoin, à un moment de leur vie, de plus de sécurité, parce que c'est un moment où ils ont besoin de se reconstruire, donc c'est là où ça va être important de les encadrer et de les aider. Et il y a d'autres moments où les gens vont être, pour le coup, à un moment de leur vie où ils peuvent être très forts, plutôt en assurance et en confiance, et bien là, il faut les libérer pour qu'ils puissent porter leurs énergies positives sans entrave. Donc je pense que l'important, c'est le dosage.
Alors vous n'êtes pas sans savoir que les Français sont parfois un petit peu susceptibles sur toutes ces questions de travail, etc. Donc si Emmanuel Macron et vous avez la majorité cet été, ce seront des ordonnances comme prévu, au risque de la mobilisation sociale à la rentrée?
Moi, je pense que Emmanuel Macron, c'est plutôt quelqu'un qui croit au dialogue. Donc je pense qu'il y aura longtemps du dialogue avant d'avoir une logique d'ordonnance. Néanmoins, il a aussi été élu sur un programme qui était très clair et qu'en fait, une très grande partie des Français souhaitent. Donc l'objectif, c'est pas de rentrer une fois qu'on a décidé la partie. On peut discuter les modalités, ça c'est important de pouvoir les discuter et de mettre un maximum de monde d'accord autour. Mais il faut pas bloquer la partie.
Très bien. Alors, il nous reste très peu de temps. Peut-être un mot sur votre vision, votre conception de l'environnement, de l'écologie, après les sommets internationaux et ce qu'on entend dire à des droites.
Je voulais juste rajouter, puisqu'on pouvait parler de trois idées, vite fait, c'est la moralisation de la vie politique. Il s'est engagé, ça va être fait. Et il faut vraiment qu'on y arrive, parce que trop de personnes ont l'impression qu'un homme politique s'intéresse plus à sa personne qu'à l'intérêt des Français. Et donc, les cumuls de mandats, enfin, tout ça, c'est très important. Voilà, maintenant, on peut parler d'écologie.
C'est un sujet, c'est vrai que, c'est en fait, important. J'oublie régulièrement, parce que pour moi, ça me paraît mais tellement évident qu'effectivement, j'oublie de le rappeler.
La moralisation ou l'écologie?
Alors, la moralisation.
La moralisation, évidemment.
J'étais là-dessus. Et l'écologie, mais en fait, c'est la même chose. Enfin, c'est à nouveau une logique de pur bon sens. Enfin, je veux dire, on est... Il y a un proverbe qui dit que la terre ne nous appartient pas, on l'emprunte à nos enfants. Et du coup, il y a toute cette logique-là de qu'est-ce qu'on transmet ensuite. Il y a une responsabilité. Moi, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai 2 enfants. Enfin, mon engagement politique, il est principalement dans la logique de qu'est-ce qu'on laisse à la génération d'après. Et du coup, évidemment, les questions écologiques, elles sont juste incontournables. L'écologie, ça doit être dans la tête de tout le monde à son niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour l'écologie ? En fait, et pour les entreprises, c'est aussi des sources de développement, c'est aussi des sources. Donc, c'est pas forcément une contrainte. Ça peut être une vraie opportunité, l'écologie. Je pense qu'il faut qu'on change de posture par rapport à ça, mais ça doit être effectivement une question essentielle.
C'est une posture qui devra être transversale dans tout gouvernement.
Ouais.
De toute façon, l'écologie, je pense sincèrement, c'est ni de droite ni de gauche. Ça nous concerne tous. Donc, de toute façon.
C'est l'avenir.
Il faut s'en occuper parce que on aura tous à payer les pots cassés. Des erreurs qui ont été faites avant. Mais de façon pragmatique et avec bienveillance.
Eh bien, c'est avec bienveillance que je vous remercie infiniment d'être venu nous voir, nous expliquer votre candidature. Marjolaine Meynier, Monsieur Francisco, merci beaucoup.
Merci pour votre invitation.
Au revoir.